おかしいおかしい。
Alain, ironie à la présentation.
Bonsoir. Deux thèmes d'un dialogue entre Congolais de ce soir. Premier sujet, Assemblée nationale. Que retenir de la première séance plénière de ce lundi sous la présidence d'Évariste Gauchard? Second sujet, province de l'Équateur, après l'annulation vendredi dernier par la cour d'appel de Mbandaka de la motion de défiance contre José Makila pour vice de procédure, le gouverneur déchu peut-il reprendre ses fonctions ou pas? Pour en parler, nous recevons comme invité Aubin Minaku, juriste, député national de la majorité et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, il est au téléphone. Moïse Nyarugabo, juriste, sénateur et membre du parti politique RCD, il intervient également au téléphone. Maître Richard Bondo, président d'Avocats sans frontières Congo, une ONG de défense des droits de l'homme, lui est avec nous au studio. À tous nos invités, nous disons bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Premier sujet de cette émission, Assemblée nationale, que retenir de la première séance plénière de ce lundi sous la présidence d'Évariste Gauchard? Sachez que la première plénière présidée par le nouveau bureau de l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi. Au cours de cette séance, le calendrier de cette session ordinaire a été adopté. Dans son introduction, le président de la Chambre basse du Parlement, Évariste Gauchard, a exposé sa vision de travail et ses attentes. Reportage Marie-Chantal Lumba.
Le nouveau président de l'Assemblée nationale a de nouveau sollicité l'appui des députés, tant de l'ANP que de l'opposition, en vue d'augmenter la production parlementaire en valorisant le travail en commission. Évariste Gauchard compte sur l'assiduité, sur des suggestions constructives et le respect du règlement intérieur et de la Constitution pour l'amélioration du travail. Il a demandé également aux députés d'être ponctuels en donnant l'exemple de la plénière d'aujourd'hui. Au lieu de débuter à 10h, c'est à 11h15 qu'elle a commencé, moment où le quorum a été atteint. Par ailleurs, le calendrier de cette session ordinaire a été adopté. Une trentaine de matières seront examinées, dont des arriérés législatifs, des nouvelles matières et des rapports d'enquête parlementaire, des matières sur la réforme de la justice, de la décentralisation et des conventions internationales. Cette session mettra aussi un accent sur l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de l'Assemblée nationale au gouvernement. Selon le nouveau président de l'Assemblée nationale, ces sujets seront traités en ordre prioritaire et il souligne que la probabilité d'une session extraordinaire est à exclure.
Aubin Minaku, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes juriste, député national de la majorité et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Que retenir de cette première séance plénière sous la présidence d'Évariste Gauchard?
Merci de la question. D'abord, quant au fond, je fais plutôt le contraire au lieu de commencer par la forme, hein, parce que le fond est plus important après tout. Quant au fond, je crois qu'il y a un équilibre bien fait, bien élaboré, entre la tâche législative et la tâche de contrôle parlementaire. Parce que concernant la tâche législative, le président de l'Assemblée nationale a proposé que nous puissions aborder directement certaines lois essentielles telles que les lois en rapport avec la réforme de la justice. Et ça a été avalisé par la plénière. C'est une bonne chose. Et toutes les lois qui ont été, les projets de loi, les propositions de loi qui ont été retenues dans par le calendrier électoral rentrent dans le cadre de la tâche législative et sont d'importance majeure pour la République. Et sur le plan du contrôle parlementaire, je crois que le président de l'Assemblée nationale, appuyé par la plénière, n'a pas du tout éludé cette question, que ce soit du côté de la majorité comme celui de l'opposition.
Oui.
Il a même été fait état d'une motion de défiance par un des députés. Et la réponse du président de l'Assemblée nationale, à ma grande satisfaction, a été que c'est un droit constitutionnel pour chaque député et que tout celui qui estimait qu'il était en droit de présenter une motion de défiance, il pouvait le faire. C'est cela la démocratie.
Merci.
Bon, maintenant, quant à la forme, je crois que là aussi, en ce qui concerne la conduite des débats, ça a été parfait dans la mesure où, à chaque instant, le président de l'Assemblée nationale s'est référé au règlement d'ordre intérieur. La parole a été accordée à tous Et chaque fois, après débat, lorsqu'il était question de lever une option, l'ont passé par le vote. C'est cela aussi la démocratie.
Merci, Aubin Minakou. Nous avons aussi Moïse Nyarugabo dans cette émission. Moïse Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un juriste, sénateur et membre du parti politique RCD. Quelle est votre appréciation de cette première séance plénière sous la présidence d'Évariste Bouchard?
Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose à dire, étant donné que c'est la première séance, et c'est une séance qui n'a pas vu le vote des lois, les débats au cours de la séance. C'était une plénière qui s'est limitée à adopter le calendrier des travaux et à adopter le rapport de la commission qui a organisé les élections, si j'ai les informations que j'ai sont bonnes. Donc, ce serait trop tôt de juger d'un bureau ou d'une équipe. Je pense qu'il faut leur donner le temps, on leur souhaite bonne chance, on va les juger sur carte, on va les juger sur les faits.
Merci Moïse Nyarugabo. Maître Richard Bondo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec moi dans ce studio. Votre réaction par rapport à cette première plénière, Évariste Bouchard?
D'abord, comme c'est la première qui dirige, que son bureau dirige, je crois que nous devons simplement saluer l'ouverture de cette séance. Néanmoins, comme vient de le dire le sénateur, il est très précoce de juger parce que il est à ses premiers pas, ce bureau, dans la direction des débats parlementaires. Et je crois qu'il faut donner le temps au temps pour que nous puissions, avec le peuple, juger aux actes la conduite des affaires de l'État ou au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple par le bureau Bouchard.
Moïse Nyarugabo, Maître Richard Bondo vient de dire, comme vous d'ailleurs, hein, qu'il est précoce de juger ce bureau à travers une seule plénière, mais toutes les tractations accumulées au niveau de l'Assemblée nationale n'ont-elles pas eu des répercussions sur votre travail à vous au Sénat?
Naturellement, le fait que l'Assemblée nationale n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, cela a pesé aussi sur le travail du Sénat. C'est-à-dire que toutes les lois qui auraient dû être votées déjà ou qui étaient en plein examen à l'Assemblée nationale et n'ont pas été finalisées pour être envoyées au Sénat. C'est par exemple les lois relatives à la mise en place des institutions judiciaires, les cours constitutionnels, les cours de cassation, le Conseil d'État et autres. Aujourd'hui, le Sénat n'est en train d'examiner que les lois qui sont passées directement au Sénat avant d'aller à l'Assemblée nationale. Ce sont ces lois comme, je crois, la loi sur les hydrocarbures, l'aviation civile. Ce sont ces lois qui sont en train d'être examinées par le Sénat et qui vont être envoyées à l'Assemblée nationale après adoption. Donc, quelque part, le fait que l'Assemblée nationale n'ait pas fonctionné pendant tout ce temps, ça ne pouvait que
affecter le Sénat.
Le Sénat.
Alors, le nouveau président de l'Assemblée nationale a dit qu'il y a près d'une trentaine de matières qui doivent être traitées en ordre prioritaire pendant cette semaine et la probabilité d'une session extraordinaire est à exclure. Pensez-vous que cela peut vous permettre de rattraper ce retard au niveau du Sénat?
Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a fait cette affirmation, parce que avec ce retard que l'Assemblée nationale a connu, bien entendu, le Sénat aussi a écoché. J'ai pensé que, à mon avis, la session extraordinaire était presque, on ne pouvait pas y échapper. Parce que on a déjà perdu presque un mois et demi. Pour la session ordinaire, il ne nous reste que 45 jours, donc un mois et demi. Normalement, au 15 juin, nous sommes supposés clôturer la session. Et nous devons d'ailleurs. Alors, qu'ils disent que la session extraordinaire est tenue, je ne comprends pas. C'est peut-être le moment où la session extraordinaire devait y réfléchir compte tenu de ce retard et compte tenu du fait qu'il y a quand même des matières qui sont urgentes. Et je me demande si dans les 45 jours, même les lois que l'Assemblée nationale a programmées comme urgentes, si elles ont terminé, j'en doute.
Robin Minakou, vous venez d'entendre, de suivre la réaction de Moïse Nyarugabo. Près d'une trentaine de matières à traiter pendant presque cette semaine. La probabilité d'une session extraordinaire à exclure, est-ce réaliste?
Oui, j'aimerais d'abord commencer par le premier aspect. Il est vrai qu'il faut donner le temps au temps, mais vous nous avez posé la question de savoir quelle était notre impression par rapport à la séance d'aujourd'hui. Et l'impression a été très bonne, tant du côté de l'opposition que de la majorité, il faut le dire. Maintenant, par rapport à cette question, personnellement, je crois que l'essentiel, c'est de gérer les temps avec efficience. Si nous n'avons que 45 jours, il faut les gérer avec beaucoup de responsabilités.
En impartissant le temps des paroles, comme le président Boucher l'avait dit.
Oui, mais concernant les vacances parlementaires, je crois que les vacances parlementaires, ce n'est pas un moment de répit pour les députés. Ce n'est pas un congé. C'est un moment permettant aux députés d'aborder un autre aspect très important de leur mandat, être proche du peuple, gérer les problèmes du peuple à la base, faire la synthèse et ramener cette synthèse au niveau de l'hémicycle, afin que cela soit pris en charge et par l'Assemblée nationale et par le gouvernement à travers les résolutions qui sont prises par l'Assemblée nationale. C'est aussi une tâche importante à ne pas négliger, mais j'en conviens, il est vrai que nous n'avons pas eu assez de temps à cause de tout ce que nous avons connu comme problème. Il faut rattraper cela et comment? C'est plutôt d'abord par une gestion plus efficiente du temps et par une méthode plus appropriée, sans négliger la tâche du député national pendant les vacances parlementaires, parce que cette tâche est aussi constitutionnelle et aussi prescrite par le règlement intérieur.
Maître Bondo, vous venez de suivre le sénateur Nyaru Gabo et le député national Aubin Minaku. Votre réaction à ce niveau du débat?
Rien, vous savez, la société congolaise, notre patrie, aspire à une société méritocratique. Et qui dit méritocratie, tient à faire la qualité du travail. Est-ce que dans les 45 jours à venir, l'Assemblée nationale aura produit un travail de qualité? Il y a une trentaine de matières sur le chapelet, et je ne vois pas comment ce chapelet pourra être évacué dans les 45 jours et donner au peuple congolais un produit de qualité pour être consommé par la patrie. Je crois qu'il y a un problème, la qualité va en ressentir.
Que répondez-vous, Maître Richard Bondo, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, à Simon Tobotela de Kisangani, qui se demande si le retard accumulé par l'Assemblée nationale est profitable aux Congolais?
Nullement profitable aux Congolais, c'est ça la dysfonctionnalité. La thèse de la dysfonctionnalité, beaucoup développée par le professeur Kayem Bentamba, c'est ça. Lorsque, pour une crise épidémique, où on crée une crise institutionnelle, voilà les conséquences qui sont lourdes, non seulement pour les parlementaires, eux-mêmes, mais pour toute la nation congolaise qui est en retard de tout.
Moïse Nyarugabo, sénateur, vous avez 30 secondes pour clôturer cette première partie.
Je pense, monsieur le journaliste, que comme nous avons dit, il faut laisser le temps au temps. Nous allons examiner, nous allons juger le nouveau bureau en fonction de la manière dont il va conduire les affaires. Mais pour ce qui est de la session extraordinaire, j'ai aussi besoin des vacances parlementaires comme tous les autres parlementaires. Mais autant les vacances parlementaires sont constitutionnelles, la session extraordinaire l'est aussi.
Merci, Aubin Minaku. Vous également, vous avez 30 secondes pour clôturer cette première partie.
Bon, l'essentiel, je l'ai dit, c'est de travailler avec méthode. L'essentiel, c'est de respecter tous les prescrits constitutionnels, notamment les vacances parlementaires, qui sont pas un moment de répit, je l'ai déjà dit, mais un moment d'un travail aussi important que tous les autres aspects de la tâche d'un député national.
Merci. Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, je rappelle que Dialogue entre Congolais de ce soir a deux sujets. Le premier, c'est la première séance plénière ce lundi à l'Assemblée nationale sous la direction d'Évariste Beauchamp. C'est le sujet que nous venons d'épuiser. Mais avant de passer au deuxième sujet, je rappelle que nous avons comme invité Aubin Minakou, juriste, député national de la majorité et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, Moïse Nyarugabo, juriste, sénateur et membre du parti politique RCD, Maître Richard Bondou, président d'Avocats sans frontières Congo, une ONG de défense des droits de l'homme. Avant de passer à la deuxième partie, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Second sujet de cette émission, province de l'Équateur, après l'annulation vendredi dernier par la cour d'appel de Mbandaka de la motion de déchéance contre José Makila pour vice procédure. À l'Équateur, attendu depuis 3 mois, la décision de la cour d'appel de Mbandaka est tombée vendredi dernier. La cour, par son arrêt, annule la motion de défiance votée le 24 janvier dernier contre José Makila pour vice-procédure. Cette motion accusait le gouverneur de province de détournement des fonds alloués par le gouvernement central aux entités décentralisées de l'Équateur. Quelle serait alors la conséquence logique de l'arrêt de la cour d'appel de Mbandaka? Selon le constitutionnaliste Bibombe Mwamba, José Makila doit en principe retrouver son fauteuil. On l'écoute au téléphone de Pélékipé Lamondo.
Si mes informations sont exactes, la cour a considéré que le quorum de motion n'était pas atteint. Il fallait au moins un tiers. Or, 11 sur 108 ne semble pas atteindre le tiers. Il y a déjà cet élément-là qui a été considéré comme vice de forme ou même vice de procédure.
Quelle pourrait être la conséquence logique de cette décision de la cour d'appel?
La conséquence logique, c'est que le gouverneur récupère son poste. Si l'Assemblée estime que la décision de la cour d'appel ne le satisfait pas, l'Assemblée, par ses avocats, peut tenir un appel à la cour constitutionnelle, dont les fonctions sont exercées présentement par la cour suprême.
Dans les temps, la cour suprême qui a été saisie sur ce dossier, avait estimé que c'était à la cour d'appel de pouvoir se prononcer.
Voilà, c'était de la compétence de la cour d'appel. C'est pourquoi je dis que conséquence immédiate, c'est que le gouverneur regagne son poste. Cette motion est sans effet.
C'était le professeur Bibombe au micro de Pélékipé Lamondo. Nous venons de recevoir ce dimanche seulement l'arrêt de la cour d'appel de Mbandaka. Nous sommes un bureau responsable, nous n'agissons pas hâtivement, nous réfléchissons d'abord. Cette réaction est celle du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Edmond Mondobo, faite ce soir à Radio Okapi. Maître Richard Bondo, le gouverneur déchu peut-il reprendre ses fonctions ou pas?
D'abord, Alain, il y a un problème de forme.
Lequel?
Je viens d'apprendre que la Cour suprême, dans un arrêt, avait décliné sa compétence au profit de la Cour d'appel de Mbandaka. Or, qu'est-ce qui a poussé Makila à saisir la Cour suprême? C'est que pour Makila, il y a eu vice de forme par rapport à l'article 146 de la Constitution. Qui dit que lorsque la motion de défiance est lancée, il faut que, pour qu'elle soit recevable, il faut au moins qu'elle ait recueilli 10 signatures, disons un dixième de membres, la signature d'un dixième de membres. Or, semble-t-il, le dixième de membres n'était pas atteint pour la signature afin qu'elle soit, la motion, afin qu'elle soit recevable. Bon. Cette violation de la Constitution n'est pas de la compétence de la Cour d'appel. Si on s'en tient à la Constitution de la République, c'est la Cour suprême, dans sa forme actuelle, comme Cour constitutionnelle, qui a la compétence d'examiner le recours du gouverneur Makila, et ce, à la lumière de l'article 161 de la même Constitution.
Donc pour vous, il y a encore vice de procédure?
Je crois qu'il y a eu vice de procédure, mais mon regret, c'est que la Cour suprême, qui était saisie comme Cour constitutionnelle, après avoir décliné sa compétence auprès de la Cour d'appel de Mbandaka, comme l'article 168 alinéa 2 de la Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle, disons pas la ligne 2, la ligne 1, dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement. La Cour suprême ayant déjà statué pour donner la compétence à la Cour d'appel, lorsque la Cour d'appel, agissant avec le parapluie de la Cour suprême comme Cour constitutionnelle, a rendu un arrêt, cet arrêt est exécutoire et l'acte sanctionné de nul tombe de plein droit.
Donc, c'est l'article 138,
alinéa 2 de la Constitution de la République, et le gouverneur doit immédiatement reprendre ses fonctions jusqu'à peut-être un nouvel exercice démocratique par une motion.
Sénateur Moïse Nyarugabo, votre réaction?
Ma réaction est très simple. Je crois que il y a des amis qui n'ont pas, qui font un peu de la confusion. Il y a quelques éléments qu'il faut préciser. La première chose, je n'ai pas de lien particulier avec Makila. Il est du MLC, je suis du RCD, il est de l'Équateur, je ne suis pas de là. Donc, je n'ai pas de lien particulier. Mais c'est un citoyen congolais, il doit jouir, bénéficier de ses droits qui sont garantis par la Constitution, comme tous les autres citoyens. Tenez, messieurs, il y a un jugement d'une juridiction compétente. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, a dit que ce dossier-là était de la compétence de la Cour d'appel. Et la Cour d'appel vient de se prononcer. Donc, elle est compétente. Elle s'est prononcée sur deux ou trois éléments que je vais évoquer ici. Pour démontrer que la motion était irrégulière. Donc, je crois irrecevable même. Parce que la motion était signée par 11 députés provinciaux. Alors que, pour que la motion soit recevable, l'article 179, alinéa 4 du règlement même de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et l'article 146, alinéa 2 de la Constitution précisent que pour que la motion soit recevable, elle doit être signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale, c'est ce que dit l'article 146, mais l'article 198, alinéa 9 précise que les dispositions des articles 146 et 147 s'appliquent mutatis mutandis aux membres du gouvernement provincial. Donc, il faut un quart. Or, la province de l'Équateur est disons, l'Assemblée provinciale de l'Équateur est composée de 108 députés. Le un quart, c'est au-delà des 26. C'est plus ou moins, je crois, 27, mais en tout cas plus de 25.
Oui.
Mais elle n'a été signée que par 11 députés. Alors, une motion qui viole et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, et la Constitution, c'est tout à fait normal qu'elle soit rejetée, qu'elle soit irrecevable, et la Cour d'appel avait raison de le faire. Donc, je ne veux même pas entrer dans le fond. Je ne sais pas si le gouverneur Makila a détourné ou pas, et moi je suis parmi ceux qui luttent contre l'impunité. Mais il faut le faire légalement. Il faut le faire régulièrement. Il faut le faire sans violation de la loi et de la Constitution. Tenez, un deuxième élément.
Rapidement.
Il semble que même le délai n'était pas respecté. La motion a été signée le 22 et Makila a été saisi le 23 en lui demandant de se présenter le 24. Il a écrit pour demander s'il pouvait bénéficier de 48 heures. Ça n'a pas été pris en compte, et le 24, l'Assemblée a siégé. De quoi avait-on peur? Mais je viens même d'apprendre, monsieur, qu'il n'y a jamais eu une enquête sérieuse, il n'y a jamais eu un contrôle qui s'est rendu au gouvernement à demander les pièces, signer un PV. Il semble que ça n'existait pas. J'espère que les membres de l'Assemblée provinciale pourront me contredire.
Donc,
si tel est le cas,
vous êtes d'avis que le gouverneur doit reprendre immédiatement ses fonctions?
Monsieur, il n'y a pas de voie. Pour deux raisons. La première, l'arrêt de la Cour suprême, de la Cour d'appel, dit qu'elle annule la motion de défiance en toute son intégralité. Elle réhabilite le demandeur dans ses fonctions de gouverneur. Alors, deuxième raison, c'est que même si l'Assemblée provinciale venait à faire appel, l'appel n'est pas suspensif des effets de l'arrêt qui a été rendu. N'est pas suspensif de l'exécution de l'arrêt. Le troisième élément.
Rapidement, parce que vous avez parlé du deuxième.
Le troisième élément est enfin, c'est que la loi est dure, mais c'est la loi. On peut ne pas aimer Makila, mais si la justice lui a donné raison, alors
où on fait confiance à notre justice, où on ne lui fait pas confiance. Rien m'a pris. C'est de la rumeur. Je pense entre parenthèses que le gouvernement poserait à ce qu'il rentre en mandat. Ce serait des voies de fait. Parce que jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle motion, jusqu'à ce qu'il y ait l'arrêt de la Cour suprême, M. Massila doit être réhabilité dans ses fonctions de gouverneur, sinon c'est de l'arbitraire.
Merci. Maître Bondo voudrait réagir. Je lui redonne la parole après vous, Aubin Inakou.
Oui, je voudrais simplement...
Maître Bondo, s'il vous plaît, vous allez réagir. Aubin Inakou, votre réaction.
Oui, merci. Je voudrais d'abord dire que la gestion du temps, c'est toute une affaire, je venais de le dire. Il faut qu'on en tienne compte aussi présentement.
Je vous en prie.
Oui.
Et il faut nous en tenir compte.
D'abord, je crois que nous sommes dans un état de droit. Nous voulons tous, chaque jour qui passe, instaurer une réelle démocratie dans notre pays. Dans un état de droit, il faut respecter les principes sacro-saints qui régissent notamment le monde judiciaire. Et en l'espèce, je crois qu'il y a un arrêt de la cour d'appel, donc la situation, le dossier est clair vis-à-vis de la population. Nous, juristes, nous devons dire que, de plein droit, le gouverneur Massila doit recouvrer ses fonctions. Là, c'est clair, sous le plan juridique. D'autant plus qu'il y a eu vice de forme au niveau de l'élaboration et de l'enclenchement du processus en rapport avec la motion. Donc, dans un état de droit, c'est clair, quel que soit son camp politique, à un certain moment, on est devant la loi, on est devant la justice, une décision judiciaire a été prise, on doit l'appliquer. Mais j'aimerais aussi ajouter ceci, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions eu un débat en rapport notamment avec les détournements des salaires des enseignants, si je ne m'abuse. Donc, malgré l'arrêt de la cour d'appel, les faits à charge du gouverneur de la province de l'Équateur restent de mise, bien qu'il bénéficie, continue à bénéficier de la présomption d'innocence. Donc l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur garde tous ses moyens politiques en vertu de son règlement intérieur pour poursuivre de nouveau le gouverneur de province, parce qu'il y a eu plusieurs faits à sa charge. C'est l'élément que j'allais ajouter, nonobstant la possibilité d'un appel qui n'est pas suspensif, comme l'a dit le sénateur Niaou Gabo, nonobstant cet appel, l'Assemblée provinciale garde toutes ses prérogatives et tous ses moyens politiques à charge du gouverneur, et étant donné que personnellement, je suis convaincu de la gravité des faits mis à sa charge, préjudiciant énormément nos populations de l'Équateur.
Là, vous parlez
je suis convaincu que l'Assemblée provinciale aura à s'assumer. Mais dans l'entretemps, il doit bénéficier de l'arrêt qui est en sa faveur.
Maître Richard Bondo, je voudrais, tout en appuyant que le gouverneur Mandela doit immédiatement réoccuper son fauteuil, et je voudrais simplement rappeler et aux sénateurs et aux députés que l'article 146 de la Constitution parle de un quart pour la recevabilité d'une motion seulement quand il s'agit d'une motion de censure. Mais d'une motion de défiance, comme dirigée contre un membre du gouvernement, en l'occurrence le gouverneur Massila, il a fallu un dixième des membres de l'Assemblée provinciale. C'est une précision de taille pour ne pas créer de la confusion dans l'interprétation des textes constitutionnels.
Sénateur Moïse Niaou Gabo, vous venez de suivre le député national Aubin Inakou. Il est d'accord sur le plan juridique, le gouverneur Massila doit reprendre ses fonctions, mais il pose d'autres conditions. Votre réaction?
Non, je voudrais qu'il donne la source. La source de son argumentation, c'est simple.
Alors, député national Aubin Inakou.
Bon, je ne comprends pas ce qu'il entend par source de mon argumentation. Je vais peut-être m'exprimer davantage.
Allez-y.
Je dis ceci. À partir de l'arrêt, il est clair que le gouverneur de province qui en est bénéficiaire doit recouvrer ses fonctions. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, bien qu'il recouvre ses fonctions, l'Assemblée, cet arrêt n'enlève en rien les prérogatives de l'Assemblée provinciale, notamment le prérogative de contrôle du gouverneur. Et donc les jours qui suivent, les semaines qui suivent, dans la mesure où il y a eu, jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs griefs à charge du gouverneur, l'Assemblée provinciale peut toujours enclencher une autre procédure, une autre motion contre le gouverneur. Et cela ne violente en rien, n'énerve en rien le droit.
Et si, si l'Assemblée provinciale ne le fait pas?
Si l'Assemblée provinciale ne le
provinciale,
fait pas.
Pardon, ne le fait pas.
Bon, si elle ne le fait pas, l'Assemblée provinciale aura à ce moment, ne se serait pas assumée. Parce que pour moi, et là c'est un point de vue vraiment personnel, j'estime au regard de ce que j'ai entendu à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait tout un débat à ce sujet. Au regard de tout ce que j'ai comme information, j'estime qu'il y a quand même des charges assez graves, des indices suffisants de culpabilité à charge du gouverneur. Étant donné que tous nous luttons contre la corruption, contre l'impunité, je pense que l'Assemblée nationale provinciale, que les structures judiciaires devraient s'en saisir pour que on rétablisse les populations victimes dans leurs droits. Voilà, mais en l'instant, il est clair que le gouverneur, en tant que bénéficiaire de cet arrêt, puisse recouvrer ses fonctions.
Maître Richard Bondo, s'il arrivait que l'Assemblée provinciale de Mbandaka n'interjecte pas l'appel?
Oui, c'est bien, il se plie à la décision de la Cour qui sera de fils exécutoire et Makila reprend ses fonctions. C'est normal parce que la conviction dont semble faire preuve le député Binakou, je crois que ça c'est de un acharnement injustifié et gratuit au simple motif que ce qui s'est passé au Palais du Peuple et qui se serait aussi passé à l'Assemblée provinciale de Mbandaka ne lie pas la justice. Ce n'est pas le juge qui a dit Makila est coupable. Il faut attendre que le jour vienne où le Makila sera dit déclaré coupable par une juridiction compétente de la République. Mais dire qu'on est convaincu comme si on est déjà juge, je crois que c'est un argument simplement gratuit et qui n'engage que son auteur.
Pensez-vous qu'il y ait des actes qui doivent être proposés, par exemple, par le ministre de l'Intérieur pour que le gouverneur Makila reprenne ses fonctions?
Non, le gouverneur n'a aucun pouvoir, constitutionnellement parlant, sur le gouverneur. Même la loi sur la conférence des gouverneurs, c'est le président de la République qui a, dans une certaine mesure, un pouvoir. Mais le ministre de l'Intérieur n'en a aucun.
Les auditeurs nous écrivent, nous les en remercions sincèrement. Nous allons prendre la première vague des réactions avant de prendre la seconde avec Samuel Kachak. Maître Bondo, il y a François Douvira qui estime que les dés sont jetés dans l'affaire qui oppose le gouverneur de l'Équateur à l'Assemblée provinciale. Inutile d'insister pour reprendre le pouvoir car l'infraction est déjà consommée.
Vous savez, tout le monde, même celui qui est l'auteur de la question ou de cette observation, lui aussi inculpé, bénéficiera de la présomption d'innocence. Donc jusqu'à ce que le juge établisse la culpabilité de José Makila, moi, en tant que professionnel de la défense, je dis que Makila pourra toujours exercer ses fonctions et il n'est pas établi qu'il est coupable, sauf jusqu'à preuve du contraire, quand ça sera dit par un jugement.
Moïse Nyarugabo, sénateur, Amadé Eti, inspecteur de l'enseignement primaire et secondaire à Mbandaka, à l'Équateur, pense que la révocation définitive du gouverneur de Mbandaka est différée la justice congolaise qui doit mettre fin à l'impunité. Cette question rejoint la préoccupation d'Emmanuel Nzoua d'Arou en province orientale, qui estime que le retour du gouverneur aux affaires serait une preuve avérée d'un niveau élevé d'impunité au Congo.
Non, malheureusement, je suis désolé de ne pas être d'accord avec lui, parce que la justice a fait son travail. Est-ce que la justice a mal travaillé? Là, je ne peux pas donner mon jugement. Mais au moins ici, le gouverneur, son cas est allé en justice. Et la justice a exigé de se prononcer. Je voulais même dire, monsieur le journaliste, que le gouverneur n'a jamais été entendu par les députés. Donc, il n'a même pas exercé son droit de défense devant
l'Assemblée provinciale qui devait d'abord écouter avant éventuellement de prendre la décision. C'est aussi une irrégularité. Donc, moi je dis, je suis de ceux qui se battent contre l'impunité et contre la corruption, contre les détournements. Mais il faut le faire dans les normes. Il faut qu'on utilise les lois et les règlements. Il faut respecter la loi. Mais si, en voulant corriger le mal, on fait le mal, eh bien on n'a rien fait. Regardez.
Rapidement, je vous en prie.
Si la cour d'appel s'est prononcée, l'Assemblée provinciale est en droit de faire la requête de saisir la Cour suprême. Ou alors, l'Assemblée nationale, comme les députés viennent de dire, l'Assemblée nationale, si elle a des faits, elle peut aussi traîner le gouverneur en justice. Mmh. Mais avant que tout cela ne se fasse, avant qu'on saisisse la Cour suprême, avant que l'Assemblée provinciale ne fasse une nouvelle motion en respectant les normes, en faisant les enquêtes, en faisant le contrôle, en signant le PV, en écoutant le gouverneur et en le mettant en justice, avant que tout cela ne se fasse, il est présumé innocent à ce jour. Et c'est un droit légitime à tout citoyen congolais avant que sa culpabilité ne soit établie.
Merci. Oben Inaku, il y a José Bolisei de Binga à l'Équateur qui pense, lui, que José Makila doit nécessairement reprendre son poste pour enseigner aux Congolais que la justice est indépendante. Il exhorte les autorités à éviter les sentiments et la course au pouvoir au lieu de se mettre à la reconstruction du pays.
Bon, je suis tout à fait d'accord, hein, parce qu'il faut respecter les principes de l'état de droit. Il y a un arrêt exécutoire, il faut que cet arrêt soit respecté, c'est clair. Et en plus, je crois que c'est une belle leçon, ce que nous vivons à l'Équateur, c'est une belle leçon pour toutes nos institutions. Il faut savoir faire les choses en respectant les procédures, en respectant les normes. Parce que je le dis, en tant que citoyen congolais, j'ai le droit d'avoir un point de vue. Je suis quasi convaincu qu'il y a des problèmes sérieux à l'Équateur en ce qui concerne la gestion des finances. Mais voilà, à cause d'un non-respect des règles établies sous le plan de la procédure, le gouverneur va bénéficier d'un arrêt de la Cour et reprendre ses fonctions. Mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde, parce que l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale garde toute sa prérogative et peut encore contrôler suffisamment le gouverneur, sinon le sanctionner.
Maître Richard Bondo, avant de prendre d'autres réactions des auditeurs, l'Assemblée provinciale de l'Équateur, auteur de la motion contre le gouverneur José Makila, a accepté l'arrêt de la Cour d'appel, mais certains membres du même gouvernement s'opposent à cet arrêt, cela par quel principe du droit? C'est une question venant de Lilanga Merveille, étudiant en faculté de droit de l'université de Mbandaka.
Non, ça ce n'est plus une question de droit, là c'est une question de sentiment et de passion. Donc c'est des gens qui peut-être veulent un règlement de compte à Makila, mais la justice, il faut la respecter. Et le troisième pouvoir, pas pour rien, c'est pour réguler ce que Benoît XVI appelle la grammaire de la vie sociale, c'est-à-dire le dialogue permanent entre citoyens. Et nous pensons, nous, qu'il faut nous incliner devant la décision de la Cour d'appel que Makila reprenne immédiatement ses fonctions. Ce sera en l'honneur de la patrie.
Nous avons dans ce studio Samuel Kachak pour la réaction des auditeurs. Bonsoir Samuel.
Oui, bonsoir Alain.
Alors Samuel, qu'est-ce qui est au menu des réactions des auditeurs ce soir?
Oui, nous avons plusieurs personnes qui ont réagi. Nous citons par exemple Damson Chibonanyambala de Lubumbashi qui pense que nos autorités et surtout nos députés doivent avoir le respect des textes et des institutions du pays. Il pense que le gouverneur déchu doit obligatoirement reprendre son poste, quelle que soit sa tendance politique.
Nous avons encore Christian Kalemba de Lubumbashi au Katanga.
Oui, il estime que José Makila doit être arrêté pour l'argent des pauvres enseignants détournés. Et une autre réaction, c'est celle d'Henri Bakoumanya de Mbandaka. Il estime que le retour de José Makila est bien accueilli à l'Équateur pour stopper le venin de la division tant au gouvernement provincial qu'à l'Assemblée. Seul lui peut favoriser la réconciliation et calmer les tensions d'un bicéphalisme politique à l'Équateur.
Et la réaction de Gaston Nzango de Bumbu ici à Kinshasa?
Oui, Gaston Gam de Bumbu de Kinshasa, Gisek Bemi, il partage la même réaction que l'autre personne qui vient d'intervenir tout à l'heure. et pour que leur tête ronde de Dédé Guémanin estime quant à lui qu'un gouverneur qui détourne et ne mérite plus la confiance de ses administrés.
Maître Richard Bondo, merci Samuel Kachat. Maître Richard Bondo, un mot par rapport à toutes ces différentes réactions des auditeurs.
C'est que la démocratie est en marche parce que, comme Aristote le dit dans la politique, la démocratie, c'est un gouvernement des citoyens libres. Ils sont libres d'accepter l'arrêt de la Cour, tout comme de le critiquer, et ça fait partie du jeu démocratique.
Aubin Minakou, député national, votre réaction par rapport à tout ce que certains auditeurs ont dit ici?
Je dirais tout juste que la vérité ontologique n'est pas toujours vérité judiciaire. En l'espèce, la vérité ontologique, c'est qu'il y a eu détournement des salaires des pauvres enseignants, mais la vérité judiciaire, c'est que l'Assemblée provinciale a violé les procédures et ça a amené la Cour d'appel à annuler la motion. C'est ça la triste réalité.
Aubin Minakou, en termes simples, la vérité ontologique, c'est quoi?
La vérité ontologique, c'est, je dirais, la vérité réelle. Il y a eu détournement des fonds, détournement des salaires destinés aux pauvres enseignants. C'est connu, c'est réel. Mais sur le plan judiciaire, sur le plan juridique, l'Assemblée provinciale devait respecter les procédures, devait respecter le quorum, devait respecter les différents délais. Pour n'avoir pas respecté, sur le plan judiciaire, la motion est nulle et le gouverneur doit reprendre ses fonctions.
Y a-t-il des preuves de détournement ou c'est simplement de l'acharnement politique?
Mais en tout cas, par rapport... Bon, on aime toujours caricaturer les choses, mais par rapport au débat, si je m'en réfère au débat que nous avons connu à l'Assemblée nationale, suffisamment de preuves ont été présentées attestant qu'il y a eu détournement des salaires des enseignants. Ça, c'est clair. On n'avait qu'à vous en référer au rapport de l'Assemblée nationale à cet effet.
Sénateur Moïse Nyarugabo.
Oui. Écoutez, la démocratie a ses exigences et il n'y a pas de démocratie sans justice. Notre justice a rendu son jugement, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est ça notre justice, c'est ça la justice que nous avons. Donc, je vais demander à ces auditeurs de comprendre que ces juges qui ont rendu l'arrêt, qui ont examiné les faits, qui ont reçu tous les documents, avoir eu des raisons suffisantes pour prendre une telle responsabilité qui est très très importante. C'est même pour cela d'ailleurs que je demande à notre gouvernement de ne pas commettre l'erreur de vouloir un peu réfléchir par sentiment comme le fait Minakou, même s'il conclut en juriste, et là nous sommes totalement d'accord, en disant il y a eu quand même des faits, il y a eu quand même des tournements, oui, à supposer que ce soit vrai. Utiliser la meilleure formule, faites des enquêtes, faites des contrôles, établissez la responsabilité, faites la mise en accusation du gouverneur, obtenez un jugement ou alors une motion qui respecte les procédures, tout le monde va s'incliner. On n'a pas à protéger qui que ce soit. Mais lorsqu'on viole la constitution et les lois et les règlements, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas corriger les violations par les violations.
Merci, sénateur Nyarugabo.
Ce ne serait qu'un équilibre de terreur.
Merci, sénateur Nyarugabo. Nous allons vous donner 30 secondes à chacun pour conclure cette émission. Maître Richard Bondo.
Ma conclusion est simple. La démocratie ne s'entend que lorsque les citoyens ont la conscience que la patrie ne peut pas être trahie par ses dignes fils et que chacun, à l'endroit où il est, qu'il soit député, sénateur ou gouverneur, que chacun travaille dans l'intérêt supérieur de la patrie.
Merci. Député national Aubin Minakou.
Ma conclusion, c'est qu'il faudrait que le peuple comprenne qu'il y a une réalité judiciaire. Il faut respecter l'arrêt de la Cour d'appel, le mandatat. Deuxièmement, la population doit savoir que l'Assemblée provinciale garde toujours ses prérogatives, peut toujours contrôler les gouverneurs et les sanctionner. Ce n'est pas du sentiment.
Merci, sénateur Moïse Nyarugabo, en 20 secondes.
J'espère que la majorité qui exerce le pouvoir va réfléchir comme Minakou, qui est de la majorité aussi, et s'incliner devant la loi, parce que beaucoup de fois, on nous a opposé les jugements des cours de tribunaux
Merci.
Qui étaient à notre défaveur, qui étaient
Merci.
Illiques, mais on nous les a opposés. Alors, il ne faut pas
Merci.
Qu'on applique les jugements lorsque ça les agrée et qu'on ne les applique pas lorsque ça dérange.
Merci à vous, chers invités. C'est la fin de cette émission. Jean-Claude Ontial a été à la technique, réalisation de Guy Mati, Jean-Claude Ntumba Kamanga, Kéline Kouté, Samuel Kachak, coordination de Martin Sebou-Jangoué, en leur nom, Alain Hirung, je vous dis merci de nous avoir suivis.